Bien, nous continuons ce soir notre étude dans le livre des juges, et cette fois-ci au chapitre 2 du livre des juges. On avait déjà vu la dernière fois que ce premier chapitre nous fait un récapitulatif des campagnes militaires du peuple d'Israël. Certains aiment à regarder à ce chapitre premier en disant voilà un peu comme un. J'ai oublié le terme qu'on utilise bon voilà, on va faire appel à la presse et on va faire une annonce à la presse et d'un peu détailler les différentes campagnes militaires et de faire un peu le point sur la situation. Et le chapitre 2, eh bien, on va avoir en fait le point de vue de l'Éternel. Donc, chapitre 1er, voilà, on a ce récapitulatif des campagnes militaires, presque d'un point de vue d'Israël, mais on avait vu déjà sur la fin, au verset 19, que voilà, il y a eu des limites, il y a eu des situations où ils n'ont pas réussi à mener ces campagnes militaires jusqu'au bout. Et chapitre 2, on voit en fait les raisons de cela. Et c'est l'Éternel qui va s'adresser donc à son peuple. Juges chapitre 2. On va, pour ce soir en tout cas, juste lire les cinq premiers versets. Juges chapitre 2, verset 1er. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Donc là, on a un peu aussi comme un retour en arrière, un peu un flashback, parce que on revient ici à une période où Josué est encore vivant. On voit ça au verset 6, que c'est lui qui va renvoyer le peuple chacun dans son héritage. Mais on a ici dans ce chapitre 2, début de chapitre 2, eh bien, l'Éternel qui va s'adresser à son peuple et qui va lui montrer, vous n'avez pas fait entièrement ce que je vous avais dit de faire. Et voilà ce qui va se passer pour vous. Et donc il y a une déclaration de la part de l'Éternel qui est une proclamation de châtiment pour cette désobéissance. Au verset premier, il est question d'un envoyé de l'Éternel. Et je crois que la traduction ici en français nous fait peut-être penser qu'il s'agit d'une personne comme un prophète, comme un porte-parole un peu qui va devant le peuple et proclamer le message que l'Éternel lui a révélé. Il n'y a aucune information au sujet de cet envoyé. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on puisse regarder et souligner ici, c'est qu'il s'agit probablement, vraisemblablement, de bien plus qu'un prophète, bien plus qu'un simple envoyé ici. Pourquoi? Alors, déjà, faut revenir à ce mot qui est employé ici, envoyé. Certaines traductions françaises ont plutôt opté pour le mot ange ou messager, pour parler de cette personne qui s'adresse au peuple d'Israël. Et c'est vrai que, bon, dans la notion populaire, quand on va parler d'ange, on pense tout de suite à un être céleste qui est au service de Dieu. Mais le mot ange signifie bien plus que cela. En fait, bon, le mot ange lui-même, ça vient du grec angelos, et ça signifie littéralement donc un messager. En hébreu, ici, puisque c'est le texte en hébreu, dans Juges chapitre 2, c'est le terme hébreu malak qui est employé dans ce passage de Juges chapitre 2. Et la racine de ce mot, eh bien, contient ce sens d'envoyer quelqu'un comme délégué, comme représentant. On retrouve ce même mot être employé pour décrire un messager humain, tout comme un messager venant de la part de l'Éternel. Dans le livre de Deux Rois, par exemple, le chapitre 1er, verset 3, on a ici l'ange de l'Éternel qui parle à Élie le Tishbite et lui dit: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dans ce même verset, ce sont les deux mêmes mots qui sont employés. Donc l'ange de l'Éternel, messager, en hébreu, on a le même mot, malak, pour parler de celui qui va, eh bien, apporter un message de la part de quelqu'un. Bien que très souvent, dans l'Ancien Testament, ce messager, eh bien, c'est un être de nature céleste, il existe néanmoins plusieurs occurrences dans l'Ancien Testament où ce terme est employé pour indiquer que ce soit Dieu lui-même qui a communiqué en personne, sous une forme visible et même physique parfois. En théologie, on va appeler une telle manifestation une théophanie. Un théos, Dieu, phainestai, qui veut dire se montrer, se manifester. Et donc, dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, on va avoir des situations comme cela. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, lorsque le Seigneur apparaît à Abraham, à son arrivée dans le pays, on a une telle manifestation. Dans Genèse chapitre 18, Abraham reçoit la visite de deux anges et de Dieu lui-même. Ça paraît assez évident quand on lit les choses et on les place dans leur contexte. Genèse 32, je crois que ça c'est assez évident. Lorsque Jacob lutte avec celui qui semblait être un être humain, mais en fait c'était Dieu lui-même. Et donc il a lutté avec lui. Mais d'autres occasions où Dieu s'est révélé sous des formes autres qu'une forme humaine. On repense à Moïse et le buisson ardent, Dieu qui se révèle d'une manière extraordinaire à Moïse. Pour le peuple d'Israël, Dieu se manifestait de manière visible avec la colonne de feu pendant la nuit, la nuée pendant le jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de commentateurs bibliques, lorsqu'on a cette théophanie qui se déroule dans l'Ancien Testament, lorsque cette théophanie, c'est sous une forme humaine, une apparence humaine, beaucoup vont associer cela à Christ lui-même. On parle alors de Christophanie, c'est-à-dire une apparition donc de Christ. Et là, on a un autre passage de Genèse, au chapitre 22, où on a ce genre de manifestation, oui, qui est assez évidente, parce que on a l'Éternel qui demande à Abraham, de sacrifier son fils, pour tester sa foi, pour l'éprouver. Abraham arrive sur la montagne désignée par l'Éternel et il s'apprête à sacrifier son fils. Et à ce moment-là, on a l'ange de l'Éternel qui stoppe Abraham et qui dit, ne mets pas ta main sur l'enfant, maintenant je sais, je sais. Et donc, on voit clairement que celui qui parle au début de ce chapitre, l'Éternel qui parle à Abraham, c'est le même qui parle à Abraham, sur la montagne et qui stoppe Abraham dans son geste. Mais ici, dans Juges chapitre 2, on peut effectivement se poser cette question sur l'identité de cet envoyé, de cet ange, de ce messager de l'Éternel. Et je pense qu'il est bien plus qu'un simple messager. Pourquoi? Relisons le texte un petit peu. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. On a directement les paroles de l'Éternel qui sont données dans ces versets. Lorsque ce messager s'exprime, il n'emploie pas une formule d'introduction que l'on voit fréquemment dans les prophètes, par exemple. Souvent dans les livres prophétiques, on a des annonces comme voici ce que dit l'Éternel. Et puis, hop, on a le message. On a, par exemple, dans Zacharie, oracle, parole de l'Éternel. Dans Jérémie aussi, me voici ce que dit l'Éternel. Et puis, il enchaîne avec ce que l'Éternel lui avait communiqué à transmettre au peuple d'Israël. Moïse, c'était la même chose. Dieu se révélait à Moïse et Moïse, eh bien, parlait au peuple. Hein, il était dans ce sens le messager, l'ange de l'Éternel, dans ce sens-là, d'être envoyé. Hein, et donc, Moïse faisait cela fréquemment. Mais dans notre passage, non seulement on ne trouve pas de phrase d'introduction ou de transition comme celle-ci, mais dans le discours même de ce messager, bien, il parle à la première personne. Il n'enchaîne pas en disant « Voici ce que l'Éternel dit ». Et là, il aurait pu dire « Je ceci, je cela », mais il va directement, hein, il arrive là, il dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte ». Et donc ça laisse sous-entendre que ce messager est bien plus qu'un simple envoyé qui a reçu une révélation spéciale de la part de l'Éternel. Bon, Josué, il avait déjà eu des rencontres, comme on en parle, hein, de Christophanie, hein, dans Josué chapitre 5, lorsque il y a cet homme qui se tient debout devant lui, hein, une épée à la main, et Josué lui demande, es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi? Et il répond, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Josué tomba le visage contre terre, et notez bien ce terme, adora. Ce qui laisse comprendre que voilà, pour Josué, il voit ce chef de l'armée de l'Éternel qui a une apparence humaine, et quand il entend que, voilà, il est le chef de l'armée de l'Éternel, il comprend à qui il a affaire, il se prosterne et il adore. Et il demande, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et là, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. En notez bien que là, l'ange, il dit pas, arrête-toi. On n'adore que Dieu. Un ange, être céleste au service de Dieu, dans une situation pareille, aurait dit, stop, ne m'adore pas. Dans d'autres situations où il y avait des faits extraordinaires qui s'étaient produits, et aussi, là, on avait un des hommes qui voulait adorer. Non, 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 je suis homme comme toi, n'est-ce pas? Mais ce que je veux souligner par rapport aussi à ce passage de Josué, c'est le lien que l'on voit avec également Exode chapitre 3 et verset 5, où il y a cette manifestation de Dieu, et Dieu lui dit ici, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. D'accord? Donc dans ces deux passages, on a Dieu qui communique et qui va communiquer de manière assez extraordinaire, mais on retient que parce que ce lieu est saint, et ce lieu est saint parce qu'on a la présence divine, eh bien il est exigé d'ôter les souliers. Maintenant, on avance quelques siècles, on a un peu plus loin. Actes chapitre 7, verset 33. Là, le Seigneur répond, il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Qui est-ce qui parle ici dans Actes chapitre 7 et verset 33? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. D'accord? Donc, on en revient à ces passages où on voit ces apparitions de Dieu de manière physique, de manière visible, et de voir que dans certains de ces passages-là, on peut, oui, associer ces théophanies, ces apparitions de Dieu, à Christ lui-même. D'autant plus qu'on sait que les enseignements que nous avons dans le Nouveau Testament au sujet de Jésus-Christ, il est désigné comme étant la parole. Hein, on parle de lui comme étant le Verbe incarné. Pourquoi? Parce que il est Dieu, il est la parole, et la parole, c'est elle qui communique. Et donc, on peut faire ce lien, hein, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que lorsque Dieu apparaissait dans l'Ancien Testament sous une forme humaine, eh bien, de toute évidence, on peut conclure qu'il s'agissait de Christ lui-même. Alors, pourquoi je souligne cela? C'est parce que un peu plus loin, dans le livre des Juges, on aura d'autres occurrences comme celle-ci. On aura par exemple Gédéon, hein, au chapitre 6, où on voit l'ange de l'Éternel qui vient et il s'assoit, hein, sous le térébinthe. Et là, Gédéon, en, hein, voyant que c'est l'ange de l'Éternel, Notez bien sa réaction. Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion qu'on ne pouvait pas regarder à Dieu, de voir Dieu et de vivre. Parce que nul être humain, aucun d'entre nous, dans notre, on va dire, situation actuelle, une situation pécheresse, hein, avec une nature pécheresse, même un corps, hein, qui est corrompu par le péché, on ne peut pas soutenir la gloire entière de Dieu. D'accord? On ne pourrait pas soutenir et vivre. OK? On sait que dans le futur, hein, Dieu, quand il amènera à conclusion hein, notre salut en Jésus-Christ et qu'il nous rendra à l'image de Christ et nous aurons un corps glorifié et nous serons débarrassés entièrement de la nature pécheresse, de notre péché, etc., à ce moment-là, nous pourrons être effectivement dans la présence de Dieu. Mais là, pour Gédéon, c'est malheur à moi. Et notez bien que ici on a l'ange de l'Éternel, on a Gédéon, et Gédéon il dit malheur à moi, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Et le verset suivant c'est et l'Éternel lui dit. Donc même dans ce passage-là, on voit que l'ange de l'Éternel, on a la même personne. Il dit sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et donc là Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Hein, et lui donna le nom de l'Éternel paix. Quelques chapitres plus loin, chapitre 13, nous avons le récit hein, de Manoac et sa femme, où l'ange de l'Éternel va apparaître à la femme et lui annoncer qu'elle allait être enceinte, elle qui était stérile, hein, qu'elle allait enfanter un fils. Et bien sûr, hein, une telle situation, une telle annonce, hein, la femme, verset 6, hein, chapitre 13, elle va voir son mari, elle va lui dire, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable, okay? Donc, une apparition visible, sous une forme humaine, cette femme l'associe que, bah, il y a un aspect différent, hein, il a l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. Bon, un peu plus loin, vers la fin du chapitre, hein, les versets 20 à 23, eh bien, lorsque hein, ils ont apporté hein, cette offrande hein, sur l'autel, là on voit l'ange de l'Éternel qui monte dans la flamme de l'autel, et à cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre, et notez bien leur réaction ici. Parce que l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Okay? Donc, pourquoi est-ce que je mentionne hein, ces trois éléments-là que l'on trouve dans le livre des Juges où on comprend que c'est Dieu lui-même qui apparaît, Dieu lui-même qui communique directement au peuple, à Gédéon, à Manoac et à sa femme? Je crois que moi, bon, et plusieurs autres, hein, en tant que parents, on peut s'identifier à cela. C'est-à-dire que quand il y a un parent qui dit à un de ses enfants, va dire à tes frères, va dire à tes sœurs d'arrêter de faire ça, sinon ils vont être punis. Et alors, peut-être que c'est le plus jeune de la famille, on ne sait pas. L'enfant va voir le reste de la fratrie et dire, papa, il a dit. Et puis les autres, ils vont pas forcément prêter autant attention au petit frère ou à la petite sœur. Mais quand c'est le parent lui-même qui va venir dire à ses enfants, hé, je vous avais dit d'arrêter et vous n'avez pas écouté. Et j'ai envoyé votre frère, votre sœur vous le dire, et vous n'avez toujours pas écouté. Ça, c'est ce que l'on voit à travers les Écritures, que Dieu fait. Dieu, il envoie des messagers. Les messagers proclament la parole de Dieu, et on a un peuple qui n'écoute pas. Et finalement, Dieu intervient, et Dieu s'exprime. Et tout comme quand il y a un des parents qui va rentrer dans la chambre quand il y a des enfants qui sont en train de faire des bêtises, Tout de suite, il y a la peur, il s'arrête, il y a la crainte. Et on est ici dans une situation similaire. Dieu parle directement à son peuple. Et le reproche de Dieu pour son peuple, eh bien, on le voit au verset 2. D'abord, Dieu, il a dit, voilà, j'ai fait toutes ces choses pour vous. Moi, j'ai tenu parole. J'ai tenu ma part du marché. J'ai tenu mon alliance. Hein, je vous ai dit que jamais je n'allais rompre mon alliance avec vous. Hein, et je vous ai donné, hein, la terre que j'avais promis à vos pères, etc. Mais vous, vous n'avez pas obéi à ma voix. Malgré tout ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël dans le passé et même pour cette génération-là, hein, parce qu'on peut mettre la libération de l'esclavage en Égypte, on peut mettre l'entrée dans la terre promise, on peut souligner comme Dieu le fait qu'il a tenu sa part de l'alliance en donnant des victoires extraordinaires comme à Jéricho et d'autres endroits. Mais là, l'Éternel n'est pas content, n'est pas content parce que le peuple n'a pas tenu sa part du marché. Et donc, selon la question que l'on voit au verset 2, les tribus avaient non seulement permis aux différents peuples cananéens de rester dans le pays, mais ils avaient aussi conclu des alliances avec eux. Et souvent des alliances matrimoniales. Ils avaient négligé hein, de détruire ben, ces lieux qui étaient destinés hein, aux pratiques idolâtres, païennes, avec des sacrifices qui étaient horribles. Mais Dieu montre ici qu'il est présent et il communique pourquoi eh bien, le peuple d'Israël maintenant a connu et va connaître ses échecs. La conséquence que Dieu déclare pour cette désobéissance incomplète, ben oui, c'est la perte des bénédictions, c'est la perte de la puissance, de l'aide puissante de Dieu, de son soutien dans la conquête du pays. Et comme pour chacun d'entre nous, lorsque nous avons été repris peut-être par l'un de nos parents ou une personne en autorité, ce n'est jamais agréable. C'est douloureux. Hein, ce que Dieu leur dit, c'est que maintenant, parce que vous n'avez pas obéi, ben, je ne vais pas chasser ces peuples devant vous. Vous allez vous débrouiller. Ils vont être à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. La déclaration de Dieu ici, elle est claire. D'abord, hein, il a rappelé cette alliance qu'il le liait lui à hein, ce peuple. Il leur a rappelé hein, ce qu'il avait fait pour leurs ancêtres et pour eux. Il met en lumière cependant aussi leur échec à obéir entièrement. Hein, je vous avais dit de dévouer par interdit ce pays, je vous avais dit de renverser leurs autels, je vous avais dit de ne pas faire d'alliance avec ces peuples, etc. Mais vous l'avez fait quand même. Et puis troisièmement, il annonce donc son intention de laisser ses ennemis dans le pays afin que, et ça c'est intéressant ici, parce que le terme qui est employé ici dans l'hébreu, ça a vraiment cette notion que ce n'est pas juste qu'ils vont être ici à vos côtés, mais c'est l'idée d'être comme une aiguille, comme une épine, comme quelque chose qui vous pique sur le côté à chaque fois. Ça, c'est le terme que Dieu il emploie ici dans cette phrase. Et donc la réaction d'Israël à ce moment-là, c'est quoi? Eh bien, verset 4, lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Il pleure. Hein, comme un enfant qui se fait gronder par les parents, il pleure parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont mal agi. Il pleure parce qu'ils n'ont pas envie de la consé des conséquences de leurs actes. Israël pleura. Mais là aussi, il savait que ça, c'était pas encore suffisant et le peuple va semble montrer hein, de la repentance de manière appropriée en apportant donc même des sacrifices hein, qu'ils offrent à l'Éternel. Alors clairement, on sait qu'il y a plusieurs choses ici à retenir, de ce qu'ils n'auraient pas dû faire ou de ce qu'ils auraient dû faire, de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'auraient pas dû contracter d'alliance, peu importe la situation, hein, même si c'était fait avoir, pas d'alliance. Et ils auraient dû renverser tous les autels idolâtres des peuples cananéens. Mais quand on relit un peu le livre de Josué, on a souvent l'impression, avec le peuple d'Israël, comme c'est souvent le cas pour nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est, on va dire à Dieu, mais on n'a pas réussi, on n'est pas arrivé, on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens pour. Mais la réponse de Dieu ici, c'est que non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne vouliez pas le faire. Hein, ce que ce peuple considère comme de bonnes raisons, hein, on ne pouvait pas, on n'y arrivait pas, hein, ils étaient plus forts que nous. Dieu considère ça comme des excuses. Pourquoi? Parce que dans le passé, il a montré sa puissance qu'il accordait à son peuple quand ils obéissaient, hein, Jéricho, ils obéissaient, victoire cinglante. Haï, ils désobéissaient. Eh bien, c'est la défaite, une défaite horrible pour le peuple d'Israël. Et donc, ce que Israël, et même souvent nous-mêmes, on peut considérer comme de bonnes raisons, sont en fait des excuses. Des excuses pour ne pas faire ce que Dieu a demandé de faire. Quand on comprend ce que Dieu nous déclare dans sa parole, hein, dans le Nouveau Testament, hein, par exemple, les passages comme 1 Corinthiens 10, 13, où Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Lorsqu'on lit des passages où il nous parle de l'aide de l'Esprit Saint dans notre vie, de l'armure du croyant, hein, ces aides spirituelles que nous avons à notre disposition pour non seulement vivre une vie chrétienne qui soit agréable, mais aussi de pouvoir servir avec force notre Seigneur. Et c'est pour ça que Paul lui-même, hein, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce qu'il l'avait vu et vécu lui-même. Mais surtout, quand Jésus s'adresse à lui, hein, sur la route de Damas, la réaction de Saul de Tarse, c'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, et Saul de Tarse obéit. Il n'a pas dit, mais je ne peux pas, je ne vais pas réussir, ils vont me rejeter, hein, comment ils vont réagir, tous ceux que j'ai persécutés, hein? Il y est allé. Et parfois, donc, nos refus sont surtout liés donc, à notre volonté, ou non-volonté plutôt, hein, que notre capacité à faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a certainement de nombreuses choses que nous pensons être incapables de faire dans notre vie, alors qu'en réalité, c'est surtout qu'on n'a pas envie de le faire. Et on peut citer quelques domaines dans lesquels beaucoup de chrétiens ont du mal, hein, où oui, ils disent je ne peux pas, je n'y arrive pas, mais en fait, c'est plutôt je ne veux pas. Pardonner, par exemple. Beaucoup de chrétiens disent oh, moi, je ne peux pas. Dieu ne nous demande pas d'accomplir des choses qui nous sont impossibles, qui sont au-delà de nos forces. Quand il nous dit pardonnez-vous réciproquement, on doit le faire. C'est lui qui donne la capacité et la force. De dire la vérité. Hein, il y en a qui disent oh, moi, je peux pas lui dire la vérité, ça leur ferait du mal, ça les détruirait, ça anéantirait peut-être notre relation, etc. Mais Dieu, il veut que nous soyons vrais dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous accomplissons. Il veut que nous vivions dans la vérité. Ou même les tentations. Hein. C'est vite fait de se dire en tant que chrétien, c'est trop fort, c'est plus fort que moi, je ne peux pas y résister, mais je sais que c'est mal, mais je n'y arrive pas. Je crois que souvent, ce qu'on néglige de réaliser, c'est que ça fait partie même des mensonges que l'adversaire veut que nous croyions. De croire que, ben, on ne peut pas. Il nous fait croire ça, et nous on va le déclarer, mais en fait, au fond de nous-mêmes, c'est surtout que on ne veut pas. Et donc, voilà le message que l'Éternel partage ici au peuple d'Israël, hein, de manière directe, de manière abrupte. Les enfants d'Israël se rendent compte de cela, hein, ils pleurent. Hein, d'ailleurs, le nom Bokim, hein, ça signifie, hein, de pleurer. Hein, c'est pour ça qu'ils ont donné à ce lieu ce nom-là. Et donc ils offrent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoie le peuple, les enfants, ils vont chacun dans leur héritage pour prendre possession du pays. Et ensuite, le verset suivant, hein, peut-être on verra ça plutôt la prochaine fois, hein, avec la mort de Josué, cette nouvelle génération, hein, de serviteurs de Dieu. Mais quelle est la solution dans ces situations-là? Quand on se dit, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Dieu, lui, dans son adresse ici au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a rappelé qui il est en leur rappelant ce qu'il a accompli, en leur rappelant ce qu'il a promis. Et je crois que c'est un réflexe que nous devons nous avoir en tant que chrétiens, c'est toujours de nous rappeler de qui Dieu est. Ce Dieu bon, fidèle, juste, vrai, amour, saint. Et se rappeler de ce qu'il a déjà fait pour nous, de ce qu'il a déjà accompli pour d'autres dans notre entourage, de ce qu'il a déjà accompli à travers l'histoire et à travers les Écritures. Et à ce moment-là, on n'aura pas cette excuse de dire je ne peux pas. Parce que même quand on est dans des situations où ça paraît impossible pour nous, l'enseignement biblique, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Donc le réflexe, c'est de se rappeler qui il est et d'aller voir la personne qui est capable, d'aller voir la personne qui est puissante pour nous aider, ben, dans nos conquêtes, dans nos luttes, dans nos tentations, dans justement le fait d'obéir. Parfois, on a besoin de l'aide de Dieu aussi. Mais quand on comprend ça et quand on agit comme ça, quand on met en pratique ces choses-là, eh bien, l'obéissance devient plus facile, l'obéissance devient plus joyeuse, et c'est pour ça que le psalmiste, hein, il a pu écrire et déclarer, hein, tes lois sont aussi douces que le miel. Hein, et la joie, hein, de connaître l'Éternel, de connaître sa loi et de vivre selon sa loi. Et on va s'arrêter là pour ce